Cinéma à la une ce matin avec un très beau film qui arrive en salle et que signe l'un des réalisateurs les plus talentueux d'aujourd'hui. Ma vie avec John F. Donovan sort au cinéma le 13 mars et on a le bonheur avec Léa Salamé d'accueillir Xavier Dolan dans le grand entretien de France Inter pour dialoguer avec lui d'ici quelques minutes l'application France Inter ou le 01 45 24 7000. Bonjour Xavier Dolan.
Bonjour.
Et bienvenue, la nuit a été courte, on n'est pas les seuls à avoir aimé votre film. Avant-première hier soir à Paris, 1350 personnes au MK2 Bibliothèque, des centaines dehors qui n'ont pas pu entrer dans la salle, et un triomphe.
J'étais pas présent en fait à la fin des projections, mais je pense que les gens, j'ai vu plusieurs vidéos. Évidemment, on avait plusieurs personnes qui étaient sur place pour accueillir les gens.
Vous n'y étiez pas par superstition ?
Non, disons que j'avais fait de la presse toute la journée, puis je suis allé accueillir les gens, puis présenter le film aussi, parler un peu aux spectateurs, leur expliquer que ça faisait 2 ans, 3 ans qu'ils attendaient le film, pourquoi, blablabla, leur parler un peu, leur présenter le long métrage. Mais après, oui, on est parti, et puis on a eu, j'ai suivi un peu sur internet, sur les réseaux sociaux, les réactions à chaud des gens, et puis c'était très positif, oui, c'était voilà.
Plus que positif, on va présenter le film pour ceux qui nous écoutent. Ma vie avec John F. Donovan, casting impressionnant, Nathalie Portman, Suzanne Sarandon, Kit Harington. Et c'est un film sur un monde qui fascine, l'histoire entre autres du destin d'un jeune acteur américain, une star de la télé, on est au début des années 2000, il doit décrocher un rôle de super-héros à Hollywood. C'est un jeune homme qui cache son homosexualité et c'est aussi un film sur l'envers du décor, sur ce qu'on ne voit pas, ce qui est derrière dans les coulisses de l'industrie du divertissement. Et on se demande, à regarder le film, est-ce que ce monde que vous connaissez par cœur, est-ce que vous l'aimez ou est-ce qu'au contraire, il vous répulse ?
Je pense que comme avec toute chose, on a un rapport amour, haine. J'aime beaucoup le show business, mais c'est pas non plus exactement le milieu dans lequel moi, je m'épanouis et puis je crée, je suis sur un plateau de tournage, je suis pas nécessairement à Hollywood, au cœur de cette industrie qui comporte toutes ces controverses, toutes ces contradictions. C'est sûr que quand on pense à Hollywood sur papier, on pense à un univers qui est tellement, et surtout depuis les deux, trois dernières années avec les réseaux sociaux, un univers qui est en pleine éclosion de diversification. On veut que les gens épousent enfin leurs idéaux, leurs différences. On veut que les gens, on veut un Hollywood tout en couleur, tout en richesse, tout en avec des notions beaucoup de plus en plus fluides par rapport à la sexualité, par rapport au genre,
moins stéréotypé en fait, c'est ça.
Moins formaté.
Que votre film montre un Hollywood ultra stéréotypé où le héros, qui est un acteur ultra connu d'une série qui cartonne, l'acteur est homosexuel, il doit cacher son homosexualité.
Le film se passe en 2006 aussi. Mais l'idée aussi avec ce dispositif, c'est d'établir que ou de forcer de forcer une réflexion qu'elle ait lieu ou non pour le spectateur, à savoir est-ce que vraiment les choses depuis 2006 ont évolué, parce que sur papier évidemment il y a cette Hollywood libéral, Hollywood qui veut embrasser la différence, mais est-ce que en sous-jacence, est-ce qu'en profondeur les vrais décideurs d'Hollywood n'ont pas encore l'intention.
Et quel est votre avis sur ça?
Justement qu'ils ont l'intention de profonde que les choses ne changent peut-être réellement pas au fond.
Pour que tout le monde comprenne, donnez-nous un exemple. Chris Evans qui joue Captain America.
Ouais, c'est toujours l'exemple que je donne en plus.
Si jamais
il se présentait sur un homme aussi, ce serait encore plus visuellement, ce serait encore plus choquant. Mais non, mais s'il se présentait au bras d'un homme sur un tapis rouge, je pense pas qu'il y aurait été jamais envisageable que Disney, Marvel, enfin maintenant Disney, lui confie le rôle de Captain America.
Ça provoquerait un séisme chez Disney.
Mais ça provoquerait un séisme surtout chez le public qui est si cher à Disney, qui est si cher aux majeures américaines qui veulent tendre la main et puis avoir leur domestique, leur box-office domestique, comme ils l'appellent, leur domestique
intérieur.
Leur box-office intérieur, exact. Et aller chercher ce public qui est plus étroit d'esprit et qui ont des idéaux masculins, féminins, beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus conservateurs, qui ne sont pas du tout alignés avec avec ces nouvelles idéologies hollywoodiennes de fluidité des genres, puis de donc moi la question que je me pose c'est oui, évidemment, on peut faire son coming out à Hollywood, on peut être gay à Hollywood, évidemment, je suis pas con, il y en a tant de gens le font. Surtout dans les dernières années, on voit leurs témoignages très touchants sur Instagram, je ne pouvais plus vivre avec moi-même, voilà, je suis qui je suis. Mais après, la question n'est pas est-ce qu'on peut faire son coming out ? Évidemment qu'on peut.
Est-ce qu'on peut continuer à réussir, être dans le top 5 des acteurs les plus aimés en ayant fait son coming out ?
Est-ce que l'opportunité et l'offre change en fonction de ce besoin d'intégrité et ce besoin d'être soi-même. Moi, je crois que oui, évidemment.
Parce que vous posez la question justement dans ce film. Il y a deux personnages forts, deux acteurs dans Ma vie avec John F. Donovan. L'un qui assume ce qu'il est et l'autre qui va mentir sur ce qu'il est. Jouer un personnage, c'est cette ambiguïté-là. Et ça dépasse le cadre d'Hollywood. C'est une manière de réfléchir sur nous, notre rapport aux autres, notre vie en société.
Ben moi, la question que j'essaie de poser avec le film, c'est est-ce qu'on peut, oui, vivre notre vie personnelle et professionnelle avec intégrité et que les deux puissent s'amalgamer et s'entrechoquer sans s'opposer.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de ne pas mentir? C'est la grande question du film. C'est le mensonge, c'est le personnage qu'on s'invente. Alors c'est le cas de la star hollywoodienne, mais c'est le cas de tout le monde. Des personnages que les gens s'inventent sur les réseaux sociaux, qu'on soit star hollywoodienne ou autre chose. Le personnage dans ce monde de 2019 où on se crée tous un personnage qui n'est sans doute souvent pas la réalité, pas ce qu'on est vraiment. Vous citez tout le temps la phrase de Gore Vidal dans le film « Style is knowing exactly who you are ». Le style, c'est de savoir exactement qui nous sommes. Est-ce que c'est ça le grand défi d'aujourd'hui pour les jeunes ?
Probablement, c'est drôle parce qu'on fait des films et puis après les gens nous apprennent un peu de quoi on parle.
Non, là mais, pour le coup, vous réfléchissez beaucoup à ce que vous faites.
Oui,
dans
oui,
les
oui,
films.
Mais on vous m'a porté dans un retranchement, dans un recoin de cette conversation que j'avais jamais explorée avant. Mais est-ce que c'est oui, j'imagine que c'est un défi, surtout que sur Instagram, on inspire les gens à être exactement qui ils sont, mais ils sont exactement tous et chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personnalité propre, tout le monde est un peu la même personne sur les réseaux, les influenceurs. Est-ce que vous avez les influenceurs?
Ça se dit, oui. Ouais. Je sais pas si l'Académie française l'accepterait, mais on le dit en studio.
Bon, Instagram l'accepte. C'est tout ce qui compte maintenant.
Et puis vous êtes québécois, vous avez tous les droits.
Si Instagram veut, Dieu le veut.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Poursuivez sur ça. Si Instagram veut, Dieu le veut. Poursuivez sur la puissance des réseaux sociaux. Vous êtes un garçon qui est extrêmement sensible aux critiques. Ce film, par exemple, fait un triomphe en France. Les critiques françaises et européennes sont très bonnes. Elles l'étaient beaucoup moins aux États-Unis. Ouais. C'est quelque chose qui vous blesse. On en a déjà parlé. Est-ce que les réseaux sociaux, votre rapport aux réseaux sociaux, vous avez dit au tout début de la conversation, j'ai regardé hier les réseaux sociaux pour savoir comment mon film était accueilli. Est-ce que vous avez toujours cette obsession des réseaux sociaux ?
Je n'ai pas d'obsession des réseaux sociaux. Moi, je n'ai qu'Instagram, en fait, parce que j'aime pouvoir partager avec les gens des fragments de ma vie. Puis j'ai aussi compris que le public, les fans ou les détesteurs...
Ils sont sur Twitter.
Ils sont surtout sur Twitter. Puis c'est rare qu'ils viennent nous attaquer comme ça chez nous, dans Instagram, un peu comme si on était dans notre salon. Et puis donc c'est
vous avez quitté Twitter.
J'ai quitté Twitter
à cause des haters.
Oui,
parce que vous avez
oui.
dit ça suffit.
Mais j'en avais marre aussi de débats qui voulaient rien dire puis qui me pétaient les couilles sur des notions complètement artificielles, puis surtout une démagogie constante, puis un manque d'intelligence, un manque de voir qu'il y a juste des gens, en fait, des anonymes qui veulent se quereller entre eux sur tout et rien. Et puis je ne pouvais plus à travers ça grandir ni même débattre, parce que il y a aucun débat possible en fait avec les détesteurs, avec les haters sur Twitter. C'est du vent, c'est rien. Donc ça m'apportait rien, moi j'y trouvais pas mon compte, donc j'ai dû couper les ponts en fait avec ce.
Et c'est mieux pour la santé mentale, et c'est vrai que
oui,
le monde paisible d'Instagram est plus
sain.
Il y a aussi dans le film une réflexion sur le rapport qu'on entretient aux stars. C'est un rapport, les fans, comment ils se comportent, ce qu'ils attendent par exemple d'un acteur. C'est un rapport qui est passionnel, religieux, et il y a un fan qui prononce cette phrase que beaucoup d'entre nous auraient pu dire, « Je suis né pour voir cette série ». Et ce qui est assez fort, c'est que l'acteur principal, c'est Kit Harington, qui joue Jon Snow dans Game of Thrones, et ça produit cette série, ce type de comportement. Est-ce que vous trouvez ça beau, Est-ce que vous trouvez ça fort? C'est l'admiration qu'un fan a pour certaines stars, ou est-ce que c'est flippant?
Mais c'est un enfant aussi, hein, qui a 11 ans, donc en quelque sorte, non, pour moi je trouve pas ça flippant, je trouve ça beau, c'est que c'est un enfant qui déjà est passionné, oui, est un peu obsessif, mais est passionné, a une passion, après, dans la vie, quand ça évolue différemment, puis que ça persiste, jusqu'où est-ce qu'on peut suivre quelqu'un? Jusqu'où est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, qu'on ne connaît pas? Jusqu'où va le fandom? Ouais. C'est une question que je me pose souvent. Quelles en sont les limites, par exemple?
Cet enfant, c'est vous, puisque vous, à 8 ans, vous écriviez des lettres à Leonardo DiCaprio.
Oui, c'est
à
bien
Suzanne
moi.
Sarandon.
C'est bien moi.
Vous étiez déjà fan?
J'étais complètement fan. J'étais, je pense, très accroché dans la fiction, davantage que dans la réalité, en fait. Puis, ces feuilletons étaient, pour moi, des feuilletons comme Roswell, comme Buffy, qui passaient ici.
Buffy le vampire, vous regardiez?
Mais oui. Mais Roswell, pour moi, c'était la vraie obsession. J'écrivais des lettres aux acteurs, aux actrices du feuilleton. C'était pour moi un échappatoire, peut-être, mais c'était quelque chose qui l'obsessivité n'était pas non plus lugubre, ou c'était euphorisant pour moi. C'était quelque chose qui me rendait profondément heureux, en fait.
Pour ce film, vous vouliez un all-star casting. C'est ce que vous avez dit, all-star casting. Vous vouliez un casting 5 étoiles. Vous l'avez eu, Kit Harington, Suzanne Sarandon, Nathalie Portman. Pourquoi vous vouliez absolument ces stars? Pourquoi est-ce que... Votre réflexion sur la star, Catherine Deneuve, elle dit « Aujourd'hui, il n'y a plus de star, puisque tout le monde est une star, donc personne n'est une star. Mm-hmm. » Qu'est-ce que vous pensez du concept de star?
Mais j'ai jamais dit ça, en fait. J'ai jamais dit que je voulais avoir
Lu.
Oui, vous l'avez lu, mais vous savez pas dire que je l'ai dit. j'avais envie de travailler avec des acteurs, des actrices qui m'inspirent, et puis Nathalie Portman, Suzanne Sarandon en font partie.
C'est quoi une star aujourd'hui? Ça existe encore?
Oui, ça existe, mais elle a raison un peu, Catou.
Catherine Deneuve.
C'est-à-dire que il y a plus de, oui. Mais de toute façon, moi, la notion de star, la notion de célébrité, pour moi, il y a des gens qui ont du talent, puis il y a des gens qui en ont pas.
Tout simplement.
Et puis, la star, l'épithète, le nom de star, est loin d'exactement différencier l'un de l'autre. Donc, on a des stars aujourd'hui, on a des mannequins d'un jour, des gens qui prétendent à une industrie, à une sphère et puis qui y parviennent, qui réussissent, parce que justement, réseaux sociaux et autres influenceurs. Mais après, est-ce que ces gens ont du talent? Est-ce qu'ils ont, franchement, non.
Vous en avez, Xavier Dolan, et c'est l'essentiel.
Pas,
Si, oui. Si, bah écoutez, vous êtes là et on vous le dit très sincèrement. Il y a Alexandre qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur Inter. Votre question à Xavier Dolan.
Oui, alors tout d'abord, juste un grand merci à Xavier Dolan. Donc vos films m'ont beaucoup aidé à me construire quand j'étais plus adolescent. aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de transition, notamment. Donc auparavant, il y avait des rôles centraux pour les femmes. Je voulais savoir, aujourd'hui, c'est plus focus sur les hommes. Je voulais savoir s'il y avait notamment une volonté de changement à travers ça.
Xavier Dolan.
Ben oui, c'est juste. Je pense que oui. En effet, j'ai fait des films très... D'abord, merci pour ce que vous venez de dire. Ça me touche.
C'est fort ce que vous dites, Alexandre.
Mais pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il y a un changement de cap. Il y a un moment dans la vie où j'ai envie de passer à un autre chapitre. La figure féminine, la femme demeure extrêmement importante pour moi, extrêmement inspirante surtout, comme en tant que personnage. Mais il n'est plus nécessairement central. Elle n'est plus nécessairement centrale maintenant. D'ailleurs, dans le prochain film que j'ai fait, que j'espère que vous aimerez, qui s'appelle Mathias et Maxime, on suit un groupe de jeunes dans leur fin vingtaine, un groupe de jeunes hommes. Est-ce que la femme reviendra de façon centrale un jour dans mes films? Peut-être, mais pour l'instant, oui, j'avais envie de...
Problème avec leur maman dans le nouveau film. Rapport père fils-mère est essentiel dans tout.
Oui, mais il y en aura toujours. Il y en a dans Genevieve Donovan aussi, et puis il y en a dans le prochain. C'est pas quelque chose que je vais perdre de vue, mais je décentralise un peu le voilà.
On retourne au standard. Bonjour Gérard.
Bonjour, merci pour le film Mommy, monsieur Xavier Dolan, c'était excellent. Je voudrais une question. Quel regard portez-vous sur la diffusion monopolistique uniquement via Netflix.
Question inévitable quand on parle de l'industrie du cinéma aujourd'hui, Xavier Dolan.
Écoutez, on me pose la question souvent, puis je ne vais pas vous décevoir, mais je suis mal informé par rapport à tous les tenants et aboutissants de la négociation Netflix de ce dossier. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise nécessairement. J'ai pas envie de m'enliser dans un prendre dans un panier de crabes, mais.
Mais vous pourriez tourner pour Netflix, par exemple, cinéastes. Exactement. Alfonso Cuarón, David Fincher.
Oui, je pourrais tourner pour Netflix. C'est vrai qu'après, pour moi, la notion de cet empire qui vient acheter des noms, qui vient acheter sa position, qui vient acheter ça repose surtout autour d'une toute puissance pécuniaire davantage qu'un grand intérêt artistique pour les créateurs. En tout cas, pour moi, de mon point de vue, c'est ce qu'il me semble pour l'instant. Puis, c'est vrai que après, c'est peut-être mon romantisme qui est peut-être même suranné mais c'est vrai que je pense que c'est absolument essentiel de partager un film avec les autres en salle. Je sais aussi qu'ils le font parfois, qu'ils font des sorties exceptionnellement pour leurs films.
Ils l'ont fait pour Roma, par exemple, le film de Cuarón.
Mais c'est-à-dire que pour moi, c'est une condition sine qua non, par exemple, pour un film que je veux faire. S'il ne sort pas en salle, si on ne peut plus en salle partager des choses ensemble, se reconnaître l'un l'autre, se regarder, juste regarder un inconnu, entendre quelqu'un rire, entendre quelqu'un s'émouvoir à côté de nous, on perd quelque chose d'absolument essentiel d'un point de vue sociétal.
Ça existera encore les salles de cinéma dans 30 ans?
Je sais pas, mais il faut parce que c'est un lieu de communion et puis c'est un lieu vers lequel on retourne, surtout quand le reste du monde est en train de s'écrouler. On est vraiment dans une société tellement fragile, on est dans un point de rupture tellement évident, et puis les moments de communion de société dont on peut jouir sont mais indispensable à notre survie, parce que le tissu social est en train de cette fabrique sociale est en train de s'étioler complètement, et puis sans ces moments-là, il y a une perdition totale en ce qui me concerne, en tout cas.
Donc vous comprenez l'attitude du Festival de Cannes, qui est le dernier grand résistant à Netflix, et on sait toujours pas si Netflix sera là en mai prochain.
Je trouve ça très difficile pour eux, et puis en même temps, je comprends qu'ils gardent leur ligne qui demeure inflexible devant les pressions d'ailleurs. De tous.
Et de porter cette conception-là, cette idée-là du cinéma.
Oui, mais ils ont raison. Puis je ne pense pas que ce soit par tradition ou par puranité. Non, je comprends. Je comprends leur position.
Il y a quelque chose d'assez fort que disait Alexandre. Vos films m'ont aidé à me construire. C'est incroyable l'influence que peut avoir un film sur un spectateur. Ça, vous en avez conscience?
Ben je l'entends. Juste hier sur le tapis rouge, il y avait de magnifiques témoignages de jeunes femmes qui me remerciaient.
Qu'est-ce qu'elle vous disait?
Elle m'a dit merci de m'avoir aidé à assumer qui j'étais sexuellement, de m'avoir aidé à faire mon coming out, et puis de m'avoir apaisé par rapport à certaines de mes insécurités, et puis de m'avoir permis de devenir qui je suis. Ou tu sais, des témoignages qui sont extrêmement prenants, puis qui en plus on reçoit en plus dans l'urgence de un peu superficiel de devoir marcher le long d'un tapis rouge puis se rendre à une destination d'un point A à un point B. On veut leur prodiguer, on veut leur donner un moment de qualité, puis être avec eux humainement, mais donc je le reçois, je l'entends, je lui ai pris la main, puis j'espère avoir pu lui faire comprendre que ces mots avaient un écho, puis une résonance en moi, mais après on doit passer à
autre chose suivante, puis c'est, et au photocall.
C'est toujours un peu chaotique comme environnement.
Vous êtes un cinéaste engagé, Xavier Dolan?
Non, j'ai pas Twitter. Mais je m'engage. Vous savez ce que je fais? Moi, je décide de donner énormément en fait par année à des œuvres de charité, Après, est-ce que j'en parle publiquement?
Le message que vous portez dans votre œuvre, c'est un message engagé?
Je pensais que vous me demandiez si politiquement ou sociologiquement
Mais est-ce que c'est politique aussi vos films? C'est ça que je vais essayer de savoir.
Ben écoutez, je pense qu'un film comme Jennifer Donovan l'est, il porte un message important sur Hollywood, sur l'identité, sur qui l'on est, sur les mensonges que l'on raconte aux autres, que l'on se raconte à soi. Oui, évidemment, c'est un film qui a une forme d'engagement. Après,
La solitude aussi de chacun.
Oui.
Non, vous parliez de ce monde qui s'évanouit, où il n'y a plus de lien social.
Oui, on est dans un individualisme qui nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes, puis couper les ponts avec le reste du monde, puis c'est assez triste en fait, mais oui, John F. Donovan parle de solitude, il parle de d'admiration aussi, mais il parle d'espoir, il parle d'une génération. Le film se termine d'une façon
Vous n'allez pas spoiler Xavier
Dolan. Non, mais je dis juste que ça se termine en insufflant un peu d'espoir à un message qui demeure assez quand même lugubre sur la perte de son identité propre, la perte des rêves, l'effondrement des rêves, mais qui, au fond, que ces sacrifices qui ont été fait par des gens qui ont tout perdu, des gens qui ont voulu être quelqu'un d'autre, on finit par inspirer une autre génération à elle assumer qui elle est. On le voit d'ailleurs que cette génération, elle veut vivre sa vie dans l'intégrité. La question, c'est est-ce que Hollywood peut lui fournir une plateforme où elle pourrait s'épanouir et nous divertir de façon riche et diversifiée, ou est-ce qu'on les cantonnera en fait à un seul et même étiquette?
Et le film pose notamment cette question. Vous avez réalisé l'un des films qui a été le plus vu au monde. C'est un court-métrage. C'est le clip de Hello pour Adele.
Ah oui, je me demandais de quoi on parlait.
2,5 milliards de vues sur YouTube, ce qui est absolument considérable, et c'est un petit film. Vous êtes encore très loin de Despacito. Je le fais en plaisantant parce que les bandes originales de vos films sont toujours assez géniales. Il y a Adele d'ailleurs dans Ma vie avec John F. Donovan.
Il y a
Adele. Votre rapport à la musique?
La musique, pour moi, tout généralement vient de la musique. J'entends une chanson, je commence à écrire avec de la musique à cause d'une musique, d'une pièce, d'une... C'est maintenant presque systématique. Tout vient de la musique.
Tout vient de la musique, pour un homme d'image comme vous.
Oui, c'est vrai, mais les images viennent à travers la musique. Et c'est jamais l'inverse pour moi.
Il y a dans le film un personnage dont vous vous moquez un peu avec tendresse, c'est la journaliste. La journaliste, la grand reporter du New York Times, d'un grand journal, qui a couvert toutes les guerres, qui a couvert le Nord Kivu, etc. Et qui regarde ce jeune acteur qui lui raconte ses états d'âme d'acteur avec un peu de supériorité.
Oui, non, mais les deux ont évidemment les deux ont leurs a priori, puis leur propre mythe personnel qui doivent être bousculés, puis déboulonnés un peu, puis...
Mais du coup, en regardant le film avec Léa, on se demandait ce que vous pensiez des journalistes et quel était votre pire souvenir des journalistes.
Mais ça n'a rien à voir, en fait. J'avais exactement ce même dispositif dans Lawrence Anyways, où une journaliste faisait l'interview de Melville Poupeau, qui était devenue... Enfin, qui était une femme transsexuelle, qui racontait son histoire à travers un livre autobiographique, et elle le questionnait, puis on sentait son malaise par rapport à cette transsexuelle devant elle, et c'est le même dispositif, en fait, qui ne sert pas du tout à... Je n'exprime pas du tout une opinion du journalisme à travers ça. Mais
pourtant,
plutôt...
c'est une bonne critique du journalisme.
Ouais, mais c'est un dispositif.
Vous ne vouliez peut-être pas le faire, mais le côté un peu, on prend pour nous, hein, mais d'un peu d'arrogance, de supériorité.
Autant pour moi, parce que ce que je voulais surtout créer, c'était juste un dispositif pour le spectateur, en fait, pour l'accompagner dans sa compréhension de l'intrigue du film. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine réticence à suivre un personnage qui sort du placard à Hollywood. C'est une histoire qui est un peu inaccessible, a priori. L'histoire de l'enfant est beaucoup plus compréhensible, mais celle de John F. Donovan est plus rédhibitoire pour des gens qui peuvent pas nécessairement s'identifier à ces codes.
Et il faut voir le film se dérouler justement pour comprendre, et notamment la journaliste sert à cette narration-là.
Son opinion change au fur et à mesure, elle se détend, elle accepte ce qu'on lui propose, et c'était un dispositif qui était pas un dispositif de critique des journalistes. D'ailleurs, lui, on peut lui reprocher tout autant.
On vous pardonne.
on vous pardonne pas parce que c'était très...
Non, mais je plaisante, on va retourner au standard et donner la parole justement à quelqu'un qui aime votre cinéma, parce que depuis tout à l'heure, on vous interviewe, Xavier Dolan, comme si vous aviez 80 ans et que vous aviez une carrière qui datait de très très longtemps. Bonjour
matin,
Lionel.
J'ai l'air d'avoir 80 ans.
Non, je vous rassure. Bonjour Lionel, Bonjour. Question à Xavier Dolan.
Alors tout simplement, je voudrais saluer Monsieur Dolan et je voudrais savoir comment, en étant si jeune, il a réussi à comprendre tant de choses que moi j'ai mis des années, des 53 ans maintenant, à comprendre. Et voilà, je voudrais le remercier pour tous ses films.
Vous êtes un sage, Xavier Dolan.
Merci, monsieur
Lionel.
Je sais pas. En même temps, je suis dans une drôle de position pour vous répondre. Je saurais pas. Je pense que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, depuis que je suis tout petit, j'aime observer, regarder, écouter la démarche, les rires des gens, entendre leur, écouter leur regrets. J'ai été dans une position d'écoute presque toute mon enfance, écouter les femmes autour de moi, ma mère, ses amis, mon père, ma famille, mes grands-mères. Qu'elle soit égyptienne ou qu'elle soit québécoise, j'ai essayé d'être à l'écoute en fait toute ma vie des gens. Je parle pas d'une position où on l'écoute parler, mais davantage où on les observe. C'est presque de l'espionnage. C'est une absorption constante des tics, des maniérismes des gens, de la façon dont ils marchent, de la façon dont ils... Et puis en les observant, ça, on apprend beaucoup sur dans les non-dits aussi, je pense, sur leurs secrets, leurs regrets, leur amertume, les rêves qu'ils ont sacrifiés. Pour moi, c'est une et ma passion en fait dans la vie de
ça
les
fait de très bons
de
films.
Les observer.
Ouais, nous on aime voir vos films. Merci Xavier Dolan.
Ben merci à vous.
Bon séjour en France, ma
ce
vie avec. C'est trop court malheureusement.
Oui,
on aurait
court.
Aimé poursuivre cette conversation. Revenez, mais on va devoir malheureusement.
Oui,
de vous, Léa.
Non, de...
Ma vie avec John F. Donovan arrive en salle le 13 mars et on le recommande chaleureusement. Merci Xavier Dolan.